à tous. Donc, on va lancer le rendez-vous des élèves sur la participation des publics dans les établissements culturels, les musées et les bibliothèques. Plus exactement, faire participer les publics à la décision. Quels enjeux pour les musées et les bibliothèques? Et on peut même rajouter au-delà. Donc, c'est une table ronde qui est organisée par les élèves conservateurs du patrimoine, notamment ma collègue Fiona Lutec, et par les élèves conservateurs des bibliothèques, donc moi, Juliette Kars. Le but, ça va être un peu à la fois un retour d'expérience, je pense, qui pourra être complémentaire des autres ateliers qui ont été menés sur la participation pendant les ETS, et en même temps, tout un débat qui fera émerger les enjeux, les questionnements sur la participation aujourd'hui et ses spécificités dans le monde culturel. Donc, merci beaucoup d'être là et merci à nos deux intervenants, donc Maëlys Lyotard, des musées de Strasbourg, et puis Jean-Christophe Lacaze, de la médiathèque Entre Dor et Ali. Donc, on va commencer par les présenter.
Oui, alors, merci Maëlys d'abord d'être venue. Donc, Maëlys Lyotard est diplômée de l'ENS et de la Sorbonne, spécialisée en histoire du patrimoine, en muséologie et en médiation culturelle. Et elle obtient le concours d'attachée de conservation du patrimoine en 2019. Et donc depuis août 2021, elle est chargée de médiation et de projets hors les murs au sein des musées de la ville de Strasbourg, donc au sein du département éducatif et culturel, où elle s'occupe des projets de médiation intermusées, des projets hors les murs et des démarches participatives, et notamment aussi de l'évaluation des actions menées. Donc, on la remercie d'être là.
Et notre deuxième intervenant, donc Jean-Christophe Lacaze. Donc cette fois côté bibliothèque, titulaire d'une maîtrise de philosophie de la faculté Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Il a d'abord travaillé dans le parc naturel régional Livradois-Forez. Et puis il a été pendant 17 ans directeur de l'association des bibliothécaires du Livradois-Forez pour ensuite devenir chef de projet et mener la construction d'une médiathèque intercommunale. Et enfin en 2017, depuis 2017, devenir directeur du réseau des médiathèques Entre Dor et Allier à Lezoux. Voilà. Et puis, je voulais citer la phrase qu'il avait mise en conclusion de sa présentation. « Manifeste un intérêt certain pour la littérature américaine et les grands espaces, pour l'éducation populaire et aussi pour les ressources infinies des territoires et des gens. » Et je pense que ce sera intéressant pour la suite sur la participation.
Donc, la participation, on voulait juste, avant de les laisser présenter leur projet, on voulait juste revenir un petit peu sur ce concept de la participation citoyenne, qui est donc une démarche dont on parle depuis les années 70, hein. Mais qui aujourd'hui, dans un contexte, on en a beaucoup parlé dans les autres ateliers de crise de la démocratie, de la représentativité, qui s'incarne notamment dans l'absentéisme lors de nombreuses élections. Cette notion de démarche participative est un enjeu de plus en plus présent, et notamment dans le monde culturel, et lié au rôle social des musées et des bibliothèques. On dit souvent que c'est un sujet à la mode, mais on voudrait montrer que pas seulement. Que c'est aussi un vrai enjeu démocratique, une façon de repenser l'action publique et notamment pour les usagers de s'approprier leur service public. Et c'est tout l'enjeu de cette table ronde. On peut pas vraiment, on peut définir la participation, mais ça recouvre de nombreuses démarches, de nombreuses pratiques très différentes qui vont de la consultation à la contribution ou l'appel à contribution à la codécision, qui peuvent prendre différents visages, et c'est justement ce qu'on va voir avec les projets de nos deux intervenants qui incarnent différentes participations ou différents niveaux en tout cas. On va laisser la parole à Monsieur Lacaze pour commencer.
Bonjour à toutes et à tous. Alors petite présentation rapide des enjeux de la participation tels qu'on les a conçus, tels qu'on les a pensés sur le réseau des médiathèques Entre Dor et Allier. Dès le début du projet validé par les élus de la construction d'un équipement culturel, souhait a été posé de donner la parole aux habitants du territoire. On a eu la chance d'avoir une résidence portée par la 27e région, une résidence de design de service, qui a placé les usagers au cœur du dispositif bien en amont de la construction, et qui a surtout essayé de penser la médiathèque du point de vue des usagers. On est parti du principe que la puissance publique allait apporter un équipement culturel sur son territoire, donc équipement, collection, agent, programmation culturelle. Mais pari a été fait aussi de décider que cet équipement public laissait les portes ouvertes pour que le territoire puisse venir l'enrichir. Donc c'est le pari qui a été fait dès le début, et on a pris l'habitude, quand on parle du projet de Lezoux, de citer l'architecte Bouchain, je ne sais pas si vous le connaissez un peu, qui a beaucoup travaillé sur le côté social en fait de l'architecture et des constructions, et qui dit que voilà, les bâtiments doivent rester ouverts, non figés, pour laisser de la place à ceux qui vont y rentrer, pour continuer de l'enrichir sans jamais le compléter définitivement. Donc c'est un peu cette philosophie qui prévaut à Lezoux et sur le réseau des médiathèques entre Doré et Allier. Ce travail autour de la participation s'est poursuivi après ce temps de résidence donc, qui a été débuté en 2012 pendant plus de 3 ans et durant tout le temps de la construction du bâtiment par une opération qu'on avait appelée les chantiers en attendant la médiathèque, qui ont été aussi un certain nombre de rendez-vous qui ont permis à la population de participer et de s'approprier le projet qui allait naître à Lezoux. Et une fois le bâtiment ouvert, les enjeux de la participation donc, se sont agrégés autour de trois thématiques. Donc la première qu'on appelle maintenant les ateliers des héros. Donc c'est la façon dont les habitants du territoire peuvent venir transmettre une compétence, un savoir-faire au sein de l'équipement. La seconde, donc, ce qu'on appelle les projets contributifs, où là on est sur la création d'un service supplémentaire au sein de l'équipement. L'exemple qui est le plus important pour nous, c'est la construction d'une grénothèque donc par les habitants du territoire. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez. Et le troisième, donc, c'est les projets citoyens. De quelle manière les habitants du territoire s'inscrivent pour participer à l'élaboration des politiques publiques. Et là, ça s'est incarné et ça s'incarne encore à Lezoux par la création donc, d'un skatepark porté par les adolescents dans une démarche et un programme donc, qui s'appelle Fab City, Fabrique ta ville, porté notamment par la Banque des Territoires. Voilà, c'est après 5 années d'ouverture donc, de notre équipement, avec un peu de recul, c'est la manière dont on arrive à conceptualiser, si on peut dire ainsi, la façon dont la participation s'est installée dans nos murs, s'installée sur le territoire, et du coup créer une réelle dynamique avec les habitants, tant dans l'appropriation de l'équipement culturel que dans sa vie du quotidien et de tous les jours. Voilà pour la petite présentation.
Merci beaucoup. Du coup, on va changer d'espace-temps et puis on va passer des bibliothèques au musée et puis de Lezoux à Strasbourg.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre invitation, Fiona et Juliette. Donc effectivement, là pour le coup, on revient à Strasbourg. Et pour ma part, je vais vous dire quelques mots d'une démarche participative qui est en cours pour le musée zoologique. Alors, simplement, en 2 mots, le contexte. Le musée zoologique est l'un des 10 musées donc de ce réseau des musées de la ville de Strasbourg, qui se situe donc au cœur de la Neustadt, à proximité du campus universitaire, et qui est donc un musée que vous n'avez pas pu visiter ces jours-ci, puisque c'est un musée qui est en cours de rénovation depuis 2019 et jusqu'en 2024. Ce projet de rénovation ambitionne justement de faire devenir le musée zoologique un lieu de médiation qui soit en prise avec les enjeux actuels, avec les enjeux sociétaux, avec les enjeux environnementaux et également avec les attentes de ses publics. Et donc c'est dans ce cadre effectivement qu'une démarche participative a été développée et je pourrais revenir ensuite éventuellement par les questions sur un contexte, le contexte à la fois politique, à la fois le contexte des musées aussi qui ont conduit à mettre en place, et de l'université d'ailleurs, parce qu'effectivement, je le précise, c'est un projet de rénovation et donc une démarche participative qui est coportée par la ville de Strasbourg et l'université, tout particulièrement le jardin des sciences de l'université de Strasbourg. Pour revenir concrètement à la démarche participative, la première étape, ça a été de définir en fait le champ de la participation, c'est-à-dire d'être très très clair sur ce sur quoi porte la participation et ce sur quoi elle ne portait pas. Et effectivement, l'invariant dans cette démarche, c'est le projet architectural et muséographique. C'est une démarche participative qui se déploie en parallèle du projet de rénovation, mais pour autant, la participation n'est pas sollicitée sur le projet de rénovation en lui-même, mais sur l'offre culturelle, sur la programmation, les activités de médiation, les événements qui seront mises en œuvre à partir de la réouverture du musée, ainsi que les thématiques que les publics souhaiteraient retrouver dans le musée, en particulier à travers les expositions temporaires. Alors, les objectifs de cette démarche sont pluriels. Alors, pour rejoindre l'introduction qui a été faite par Fiona et Juliette, l'objectif central, c'est effectivement de favoriser une appropriation active du musée et donc de sa programmation en particulier par les habitants dans toute leur diversité. On peut identifier en fait finalement trois grands objectifs à court, moyen et long terme. Alors à court terme, en parallèle du projet de rénovation, c'est effectivement de donner une visibilité au musée et puis de maintenir ce lien entre le musée et les habitants pendant la période de fermeture voire de le développer avec des habitants qui n'auraient pas eu jusqu'à présent ce lien. Ensuite, à moyen terme, et donc en vue de la réouverture, c'est effectivement d'aller consulter les habitants, d'aller non seulement identifier leurs besoins et leurs attentes, mais ensuite, et ça c'est très important, non seulement d'être dans la consultation, mais de bien prendre en compte ensuite ces besoins et ces attentes dans la programmation culturelle qui sera mise en œuvre. Et puis à plus long terme, une fois le musée rouvert, l'objectif ultime, si je veux dire, ce serait d'impulser une dynamique participative qui soit pérenne, qui soit durable et qui permette sur le plus long terme d'associer les habitants à la programmation culturelle du musée. Alors toujours dans cette idée de bien définir le cadre de cette démarche participative, qui sont les publics cibles ? Alors pour le coup, ça fait vraiment écho au projet scientifique et culturel du musée zoologique. Donc il s'agit des publics cibles du PSC que vous retrouvez ici et qui tâchent finalement de couvrir les habitants de Strasbourg dans leur diversité. Donc les familles, le jeune public, les personnes en situation de handicap, les habitants, alors là, peu familiers des musées, finalement, j'ai fait les cercles se superposent les uns aux autres, mais ils pourraient encore plus finalement se superposer puisque c'est une typologie. Mais en fait, on peut trouver des familles peu familières, on peut trouver des étudiants spécialistes, etc. Donc les jeunes et les étudiants et les spécialistes. Et donc enfin, concrètement, de quoi s'agit-il ? Que mettons en place ? Donc c'est une démarche en trois phases qui a commencé là à l'automne 2022, sur laquelle on travaille, on pourra revenir sur la question du temps ensuite, mais sur laquelle on travaille depuis plus d'un an. Et même les prémices de cette démarche sont encore antérieures, et qui se terminera donc en 2024 avec un événement de restitution pour la réouverture du musée zoologique. Donc c'est une démarche en trois phases. Une première phase qui correspond finalement à trois niveaux crescendo de participation. Donc une première phase, on est vraiment dans la consultation et une méthodologie quantitative, à savoir une enquête par questionnaire qui la vise à recueillir les représentations, les attentes, les besoins des habitants, avec une passation qui s'est faite de deux façons, physique, en ligne, et une diversification, ça c'est vraiment important. On ne s'est pas contenté de le mettre sur la page Facebook des musées, parce que là, on sait très bien qu'on aurait eu un certain type de public, mais ça aussi, je pense qu'on y reviendra, mais avec une diversification des terrains de passation, ainsi que des relais de diffusion. Donc cette phase vient de se terminer avec 668 répondants, qui dépassent tout à fait l'objectif qu'on s'était fixé, qui était de 200 répondants. Ensuite aura lieu une deuxième phase, et je passe rapidement et puis on pourra revenir pour les questions, mais une deuxième phase de focus group, où là on est toujours dans la consultation, mais qualitative, où on va aller creuser par typologie de public, que je vous évoquais précédemment, les attentes et les besoins plus spécifiques. Là il y aura 5 focus group qui vont se dérouler entre le printemps et l'automne de cette année. Et enfin, des ateliers participatifs, alors de concertation, voire de co-construction, puisque là j'y reviendrai aussi, c'est une démarche qui est en fait... évolutive, au sens où initialement on s'était dit on va créer in fine un comité d'usagers. Et en fait, par les questions qu'on a posées par le questionnaire, on s'est rendu compte que peut-être que le plus pertinent c'était de rester à l'écoute de la population au fur et à mesure de notre démarche et que c'était pas forcément la solution idéale qu'on imaginait in fine pour un fonctionnement participatif du musée que ce comité d'usagers. Et justement, les ateliers participatifs vont nous servir à définir avec les participants, un fonctionnement, les modalités d'un fonctionnement participatif du musée sur le plus long terme et à voir ce qui est le plus pertinent. Est-ce que c'est un comité d'usagers ? Est-ce que c'est un club des voisins ? Est-ce que c'est finalement des enquêtes régulières et que finalement c'est ça qui suffit aux yeux des habitants ? Est-ce que c'est... Donc c'est les modalités de ce fonctionnement participatif qui vont être définies avec les habitants. Et puis je me tiens à votre disposition pour les questions qui vont suivre et je pourrais préciser aussi qu'on est accompagné peut-être par deux prestataires. Et ça, je peux y revenir aussi dans la suite. Je vous remercie.
Merci pour cette présentation. C'est très intéressant parce qu'en vous écoutant tous les deux, on se rend compte de l'importance de la structuration en amont de la démarche participative, que avant de se lancer, on ne peut pas se lancer tout de suite. Il faut bien préparer et mettre en place la démarche. Et notamment, donc, une des limites qui est parfois opposée à ces démarches participatives de critique, c'est cette question de la représentativité. Alors, Maëlys, vous en avez un petit peu parlé. Mais comment est-ce qu'on fait pour impliquer un panel de citoyens le plus représentatif possible pour ne pas impliquer les citoyens qui viennent déjà au musée et qui se sont déjà emparés de cet équipement pour toucher d'autres publics, pour aller vers peut-être ce mirage de la représentativité, mais essayer de le réduire au maximum. Je ne sais pas si vous voulez répondre, un de vous deux, les deux. Je pense que les démarches sont différentes en musée et en bibliothèque.
Donc effectivement, c'est une problématique qui était centrale pour nous, qui était celle de ne pas se retrouver avec ben, finalement le public habituel et habitué, voire également, pour vous dire, en fait, une association s'était constituée au tout début de l'annonce de la rénovation du musée zoologique, une association d'amis, assez restreinte finalement, mais qui, là aussi, avait voilà, certaines velléités par rapport au projet de rénovation, par rapport à la future programmation culturelle, etc. Et donc voilà, il s'agissait vraiment de ne pas se retrouver finalement, in fine, avec ce noyau de personnes fidèles et habituées qui, quelque part, il y avait même une crainte au début que, voilà, qu'il y ait un noyautage quelque part de la démarche par ce groupe d'amis constitué. Donc ça, c'était un vrai défi pour nous. Et c'est ce qui a conduit à vraiment réfléchir en amont, méthodologiquement, comment développer la démarche et effectivement, comment diversifier et comment aller. Je crois que c'est ça qui est vraiment important, c'est pas attendre que les publics spontanément viennent prendre part à la démarche, mais c'est vraiment aller à la rencontre des publics, aller à la rencontre même des usagers, des habitants au sens plus large, et aller les solliciter, et ce, ben, comment faire en fait en passant par des relais. Donc effectivement, par le biais du questionnaire et ensuite des focus groups, en fait, les répondants au questionnaire vont ensuite nous permettre de recruter les participants au focus group et ensuite les participants aux ateliers participatifs. Donc les trois phases sont vraiment liées. Et effectivement, la démarche a été d'identifier les relais associatifs, les relais correspondant finalement, les relais étudiants correspondant aux différents types de publics que je vous ai cités, à la fois pour la diffusion des questionnaires et ensuite pour le recrutement des personnes au focus group. Avec, là, je prends juste un exemple et après, je vous laisse la parole. Par exemple, une association vraiment qui est toute proche du musée zoologique, qui est implantée dans un quartier avec une forte mixité justement sociale, où on retrouve ces différents publics que l'on souhaite toucher. Et notamment pour aller vers les personnes moins familières des musées, il y a une association qui est finalement voisine du musée, qui se trouve au niveau d'un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une cité à toute proximité du musée. Et donc ça va être non pas de convier simplement cette association, mais en fait d'aller à des rendez-vous qui sont des rendez-vous habituels de cette association, les vendredis midi, et en fait d'aller justement les voir et leur parler et échanger avec eux dans le cadre de ce qui sera un focus group. Et donc c'est vraiment cette idée, je pense, d'aller à la rencontre en fait des habitants, et pas, parce que sinon si on attend simplement que des personnes viennent vers nous et participent à la démarche, on aura effectivement toujours les mêmes profils.
Juste quelques mots supplémentaires pour abonder dans le sens de Maëlys, hein, effectivement. Hein. Il faut relativiser aussi la quantité. Je pense que ça fait peur à beaucoup de monde. Je pense qu'il faut là aussi être raisonnable. La démarche participative initiée à Lezoux en 2012, c'est 400-500 personnes qui en 6 mois ont participé à différents ateliers, différentes tables rondes, différentes plénières, etc. etc. C'est pas les 20 000 habitants du territoire intercommunal. Donc il faut reposer des choses par rapport à ça. Et après, vraiment, pour aller dans son sens, c'est dire qu'il faut aller à la rencontre des habitants. Le travail initial de la 27e région, hein, la première tâche qu'elle a faite, une fois qu'on lui a donné un équipement dans la ville pour travailler, ça a été de sortir des tables et des chaises sur le trottoir et d'interpeller les gens, tout simplement, et d'interpeller les gens sur leur quotidien pour faire en sorte et leur expliquer que le futur équipement culturel allait s'installer dans leur quotidien. J'ai pris l'habitude de dire que fréquenter la bibliothèque, c'est une pratique, au même titre que faire du judo, au même titre que prendre des cours de dessin. Donc voilà, on va pratiquer la médiathèque parce que la médiathèque n'est pas simplement et n'est plus simplement un lieu d'emprunt d'ouvrage, mais on vient y faire différentes choses, différents ateliers. On y vient aussi pour avoir chaud, on y vient aussi pour avoir des fauteuils confortables, pour avoir de la Wi-Fi. On y vient pour rencontrer des gens, on y vient pour utiliser les sanitaires. Donc voilà, c'est une pratique aussi au quotidien. Et tout le travail de la 27e région et celui qu'on a poursuivi après, ça a été vraiment d'interpeller les gens dans leur quotidien et d'arriver à inscrire cette pratique-là dans leur quotidien. Eh bien oui, moi je viens tous les mardis à Lezoux parce que j'ai ma maman à la maison de retraite. Eh bien voilà, du coup, comment on va prendre en compte ça par rapport à des horaires de la maison de retraite, par rapport à des horaires du centre de loisirs, par rapport à des prestations médicales, etc., 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 pour faire en sorte qu'à un moment donné, eh ben, sur le parcours du quotidien, la personne, l'individu, l'habitant, l'usager, eh ben, se disent « Tiens, je vais à la bibliothèque aussi au même titre que je vais chez le coiffeur. » Voilà. Et je pense que c'est important de penser cette participation comme ça, de ne pas la penser uniquement du point de vue, mais c'est assez clair dans la slide de Maëlys, hein, du coup, il y a cette entrée, effectivement, au début, il nous faut des gens, bien évidemment, pour débuter le travail, mais il ne faut pas non plus en faire une fixation. Je veux dire, on travaille progressivement, on avance, se positionne dans une échelle de temps certainement un peu différente, et puis on prend le temps de construire avec. Je crois que c'est le plus important.
Ce qui est intéressant, je trouve, dans vos deux approches, c'est qu'à la fois, on diversifie les canaux et on prend le temps, finalement, de rencontrer des gens, d'aller voir un peu les gens dans des endroits où ils n'ont pas l'habitude d'être consultés. Et du coup, ça fait émerger la question de la temporalité, qui rejoint un peu ce qu'on disait hier au rendez-vous des élèves sur la décélération. Comment aborder une démarche participative du point de vue de la temporalité, mais aussi des moyens humains? Comment vous l'abordez, vous?
Effectivement, je l'ai mentionné, on en a beaucoup parlé dans nos échanges préalables. La question du temps est fondamentale et je crois qu'il faut vraiment, quand on se lance dans une démarche participative, avoir conscience que, ben oui, on va prendre le temps de se mettre à l'écoute. Et en fait, se mettre à l'écoute, c'est effectivement quelque chose qui prend du temps, voire qui est aussi chronophage finalement. Ce que je mentionnais tout à l'heure, le fait d'aller identifier les différents relais, le fait aussi de, ben, ce que disait Jean-Christophe, de s'adapter finalement au quotidien des habitants et non le contraire. C'est-à-dire, bah voilà, nos focus group, par exemple, nos ateliers, bah on va pas les organiser en semaine à 14h30 sur nos horaires de bureau, évidemment. Mais ça peut faire sourire, mais en fait, on envoie parfois des démarches participatives et puis après, qui disent, bah voilà, finalement, les gens sont pas motivés, il n'y a pas de participants. Bah effectivement, par exemple, on va, lors de la restitution publique de l'enquête, eh bien, effectivement, on va organiser une garde d'enfants qu'on va annoncer parallèle à la restitution publique pour qu'effectivement, des familles que l'on sait être d'ailleurs un public assez privilégié du musée zoologique, ben, puissent effectivement venir. Et de même, en termes de donc, chronophage, au sens, enfin, la temporalité au sens de du coup, s'adapter aux horaires qui sont ceux aussi des disponibilités finalement des habitants, chronophage aussi au sens où bah oui, prendre le temps de l'écoute, un focus group, ça ne se fait pas en une demi-heure. Ça se prépare en amont, ça s'analyse en aval. La passation des questionnaires, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, il y a la passation des questionnaires en ligne, mais en fait, il y a la passation des questionnaires aussi sur le terrain. Et c'est ça aussi qui nous a permis de parler d'aller à la rencontre. C'est effectivement de passer une demi-journée sur la place du château, de passer une demi-journée, voire même une journée entière, dans le quartier du musée zoologique, à aller à une table de café, à aller à une personne assise sur son banc, et à prendre le temps d'entamer la discussion et puis de demander à la personne si elle est d'accord pour effectivement répondre au questionnaire. Et donc oui, c'est effectivement autre chose que simplement faire un post Facebook, diffuser son questionnaire et puis attendre que les réponses n'arrivent. Et ça nécessite aussi des moyens humains. Et ça, peut-être que, je ne sais pas si Jean-Christophe veut continuer.
Oui, là aussi plutôt des éléments pour abonder dans ce sens. L'exemple que j'aime le plus relater, c'est la construction de la Grénothèque à Lezou, parce qu'elle s'est inscrite dans une programmation culturelle qu'on avait appelée de la graine à l'assiette. Et l'idée donc a germé, pour le coup, excusez-moi, mais c'était facile, de créer une Grénothèque, de créer des bacs potagers. Et on a effectivement inscrit ça dans un exercice budgétaire annuel, bien sûr, mais le projet a duré 2 ans et il dure encore. Voilà, il ne s'est toujours pas arrêté. Et la communauté, parce que c'est des mots qu'on emploie aussi maintenant, de personnes agrégées à ce projet, ne cesse de grandir, ne cesse de grossir. C'est ce qui est intéressant, parce que la démarche s'est effectivement installée dans le temps, parce qu'elle n'a pas été décidée de A jusqu'à C, et puis on arrête et on passe à autre chose. Elle s'inscrit, je le répète encore, par rapport aux propos de tout à l'heure, dans un quotidien des gens. La Grénothèque est intéressante pour nous maintenant à la médiathèque, parce que c'est un service porté par les habitants, avec des permanences régulières tous les mois des habitants qui viennent expliquer aux autres ce qu'est la Grénothèque, comment ça fonctionne et pourquoi et comment on peut l'utiliser. Donc le bibliothécaire par rapport à ça est à côté, voilà, c'est le traditionnel pas de côté que l'on fait, de laisser de la place aux habitants, aux usagers, pour faire vivre aussi au sein de cet équipement-là un nouveau service que le bibliothécaire tout seul n'aurait certainement pas pu proposer aux usagers et aux habitants. Et c'est clair que par rapport à ça, on s'inscrit dans une temporalité différente. Maëlys l'a dit, celle des gens. Les rendez-vous de construction de la Grénothèque étaient à 19h30 jusqu'à 22h30. Donc il est clair qu'on n'était pas sur des horaires de bureau. Et on était là quand les gens étaient disponibles, ils pouvaient venir. Et là aussi, pour fixer des choses, la première réunion de lancement de ce projet-là, ça a été un simple appel dans la presse. Et on a réuni 40 à 45 personnes dans une salle qui ont décidé collectivement de travailler autour de ce projet. Certains ont abandonné, d'autres sont encore là, de nouveaux se sont greffés au groupe. Ça continue, la Grénothèque a donné naissance maintenant à une tisanerie, donc ça a été la construction d'un nouveau meuble dans la médiathèque par les habitants qui proposent régulièrement des tisanes aux gens qui viennent utiliser les services de la médiathèque. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée et je crois vraiment que c'est quelque chose de fondamental de penser ça et de penser nos projets aussi du point de vue de la temporalité des utilisateurs, des habitants et des usagers.
Merci beaucoup, c'est super intéressant. Et en fait, les deux démarches montrent des degrés d'implication différents aussi des citoyens dans ces démarches qui peuvent être... voilà, l'implication des usagers peut être très différente en fonction des démarches. Et du coup, j'ai un peu deux questions en une. Il y a la question de la co-construction que vous avez un petit peu abordée, Maëlys, et cette idée de méta-participation, comme on l'avait appelé avec Juliette, c'est-à-dire de faire une démarche participative, certes, mais de ne pas l'imposer, et de construire et co-construire la démarche elle-même avec les gens, que je trouve très intéressant. Et en fait, cette idée, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux questions en une, cette idée, elle rejoint aussi un peu la question de la remise en cause, en fait, de l'expertise technique et de se dire, on ne va pas faire une démarche participative qu'on va imposer aux gens, juste leur demander leur avis, mais faire avec eux. Et ça, ça implique aussi de se dire, on se remet en cause, nous, et notre expertise de sachant, on va dire, pour demander leur avis. Et ça rejoint ce pas de côté dont vous avez parlé, Jean-Christophe. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant si vous pouvez peut-être développer un peu ces deux aspects tous les deux.
Ah oui, effectivement, et c'est quelque chose qui en fait est arrivé au cours de la démarche, parce que je pense que c'est vraiment ce qui est fondamental quand on part pour une démarche participative et qu'on ne veut pas être justement, et ça c'était l'écueil qu'on voulait absolument éviter, d'être dans, voilà, on fait du participatif pour pouvoir dire qu'on fait du participatif et d'être dans ce qui malheureusement est quelquefois le cas, voire souvent le cas, c'est-à-dire... voilà, un artifice finalement communicationnel pour dire voilà, on a coché la case participatif. Et nous, c'était vraiment ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait éviter. Et d'où vraiment cette volonté de rester à l'écoute, de rester ouvert au fil des étapes de la démarche. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, que j'ai particulièrement perçu en fait lors de la mise en œuvre de la première phase. Alors, on travaille avec une prestataire qui a également fait de la passation de questionnaires et qui va s'occuper de l'analyse, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est quelque chose qui est véritablement chronophage. Je l'ai fait moi-même pour d'autres évaluations qu'on mène en interne, mais ça peut pas être... voilà. Ou alors, il faut que ça soit mon seul et unique projet, ce qui n'est pas le cas. Et donc, je suis allée sur le terrain. Et effectivement, dans le questionnaire, on avait cette question. Trouveriez-vous intéressant qu'un comité d'usagers ou un club des voisins soit mis en place pour être consulté? Alors, on explicitait un petit peu, ce comité pourrait être consulté régulièrement sur la programmation culturelle, sur les thématiques des expositions temporaires. Et alors, on n'a pas encore l'ensemble des résultats et c'est quelque chose qu'on publiera d'ailleurs sur la page participer.strasbourg.eu, puisque la ville de Strasbourg, et ça c'est quelque chose que voilà, j'en profite pour mentionner, parce qu'on est quand même dans un contexte particulièrement propice au développement de ce type de démarche, puisqu'on a une direction de la participation citoyenne à la ville de Strasbourg qui nous accompagne aussi dans cette démarche. Et donc on a cette plateforme sur laquelle la démarche est mise en ligne, les résultats seront mis en ligne, et notamment les résultats à cette question qui vont nous nourrir, nous ensuite, pour les étapes suivantes. Et j'étais donc sur le terrain à poser cette question au public et j'ai été assez, ébranlée en fait finalement dans des a priori que je pouvais avoir, puisque quelque part je me disais voilà, in fine, un comité d'usagers, et puis on s'était aussi dit on va pouvoir peut-être restreindre ça d'un point de vue territorial à un club des voisins, aux voisins, au quartier du musée zoologique, puisqu'on a à la fois la proximité du musée et en même temps cette mixité sociale où l'on retrouve toutes nos typologies de public. Et en fait, j'ai eu des réactions très spontanées. Pourquoi seulement les voisins? Pourquoi est-ce que les voisins représenteraient l'ensemble des habitants? Pourquoi seulement un comité restreint? Ça risque de devenir un club très fermé. Pourquoi ce serait seulement ces personnes-là qui seraient associées? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas, en fait, comme vous le faites aujourd'hui, des enquêtes de façon régulière? Ou alors, pourquoi est-ce que vous n'expérimentez pas avec des personnes à chaque fois différentes? Enfin, voilà, j'ai eu tout un tas de questions et qui là, m'ont vraiment... Et je pense qu'en fait, notre expertise, ce n'est pas qu'elle est remise en cause ou remise en question. Je pense que c'est plus nos éventuels a priori ou préconceptions qu'on peut avoir qui sont remises en question, et qu'au contraire, notre expertise, elle est immensément enrichie, en fait, par ces rencontres et par cette mise à l'écoute, en fait, cette écoute qu'on peut avoir des habitants et des publics. Donc, enfin, j'avoue que je suis assez curieuse, en fait, de la suite de la démarche et de cette démarche, entre guillemets, méta-participative. On va justement se poser la question avec les habitants eux-mêmes, de finalement quelles sont les meilleures modalités d'un fonctionnement participatif sur le long terme qui effectivement conviennent aux habitants.
Je souris parce que on n'a pas beaucoup échangé avec Mélissa avant, mais on est plutôt en phase sur plein de choses et je trouve ça plutôt rassurant, exactement. Juste peut-être compléter ou enrichir, du coup, j'ai pris l'habitude de dire aussi que la participation, ça ne se décrète pas. On ne décide pas du jour au lendemain de ben, « je fais de la participation » parce qu'en fait, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Parce que si c'est une injonction, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Donc je pense qu'il faut, en termes d'état d'esprit, en termes de positionnement professionnel, faire ce pas de côté, effectivement, et se donner les moyens, les outils, les outils de mise en œuvre, les outils d'évaluation, voilà, pour mettre en œuvre une démarche participative avec un territoire. Ça, c'est le premier point qui me semble vraiment très, très important. Au risque qu'effectivement, ben, il y a un risque à la participation, pour le coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné la parole, si on se dépêche de la confisquer parce qu'in fine, on sait déjà ce qu'on veut faire, ça n'a pas beaucoup de sens et je pense que c'est un vrai discrédit à la démocratie. Donc je crois qu'il faut être prudent, peut-être pas, mais vigilant sur la manière dont on utilise ce concept de participation et la manière dont on le décline dans la sphère publique. Je pense que c'est un véritable enjeu, hein, un enjeu politique pour le coup. Et puis le deuxième point, et je rejoins complètement Maëlys là-dessus, c'est la question de la gouvernance. En fait, là aussi, elle se pose très rapidement, elle a été très très bien décrite tout à l'heure. Je pense que là aussi, typiquement, elle est évolutive. Il n'y a pas quelque chose de figé, pour le coup, réellement. Si on veut être attentif à ce territoire à qui on demande de participer à l'élaboration de la chose publique, eh ben, il faut aussi qu'on soit en capacité d'adapter nos compétences, notre expertise à ce territoire et à ses habitants et à ce public dans la manière dont il fonctionne lui aussi. Voilà, donc la question de la gouvernance reste une question entière, je pense, qui n'est pas traitée sur le musée à Strasbourg, qui n'est pas traitée non plus chez nous. On a mis en place des copiles, on a mis en place des groupes de gestion, on a mis en place des comités, mais sans peut-être quelque chose de forcément satisfaisant, mais surtout, plutôt envie de dire, quelque chose qui est en permanente évolution sur la manière de gérer les choses. Voilà.
Merci beaucoup. On va, je pense, devoir aller un peu plus vite pour laisser un peu de temps de questions au public. Mais peut-être une constatation à laquelle on est arrivé avec Fiona au fil de nos recherches et au fil de ces discussions. C'est un peu les spécificités des établissements culturels en termes de participation des publics. Est-ce que vous pensez que finalement, les établissements culturels, leur lien au savoir, au public peut-être plus direct que d'autres services, et aussi leur capacité peut-être à créer des choses qui vont être peut-être plus dissonantes avec l'institution que d'autres services, ont finalement une capacité à innover pour apporter des nouvelles réponses en termes d'implication des citoyens dans les services publics?
Vaste question. Je suis pas sûre. En fait, je pense qu'au contraire, enfin en tout cas, alors dans les musées, parce que je pense que musées et bibliothèques, il y a quelque chose quand même qui est très différent. Ce sont les publics habituels des musées et des bibliothèques, et ça, on le sait, on a quand même un public qui est beaucoup plus large et diversifié dans les bibliothèques que dans les musées. Et je pense qu'en tout cas, dans le cas des musées, on a quand même un enjeu et un paradoxe qui est le fait qu'on conserve un patrimoine. Donc si on en revient même à la définition même de patrimoine, on est sur un héritage commun qui finalement appartient à tout un chacun. Et de fait, les musées ont quand même un vrai défi qui est effectivement la diversification de leur public et l'appropriation, on revient à ce terme, de ce patrimoine commun par l'ensemble des habitants dans leur diversité. Et on a quand même un problème on parlait d'expertise tout à l'heure, la question de la légitimité et du fait, enfin, les publics, et dans les musées, je pense encore plus que dans les bibliothèques, il y a beaucoup d'habitants qui peuvent être plus éloignés socioculturellement, des lieux culturels, qui vont avoir du mal, ne serait-ce que se sentir légitime à passer le pas, la porte d'entrée du musée. Donc ensuite, c'est encore une étape supplémentaire, mais ça peut être finalement aussi un autre chemin d'accès que de leur demander, en fait, finalement, qu'est-ce qui vous ferait passer la porte du musée. Et donc c'est là où la démarche participative, elle peut justement aller chercher ces publics et donner justement une voix et donner une légitimité à ces publics qui n'osent pas venir au musée. Mais je pense finalement que le terrain en tout cas des musées n'est pas forcément idéalement, initialement propice au développement des démarches participatives. Je pense que c'est un terrain qui est assez compliqué mais qui du coup en est extrêmement, extrêmement intéressant.
Pas forcément de complément à ça, simplement pour, je parle plus là du coup aux bibliothécaires, hein. Vous rapprochez du travail qui a été fait en 2002 donc sur la charte de lecture publique avec l'IFLA, donc la charte de l'UNESCO qui a été revue, qui a été retravaillée dans le cadre du travail de l'IFLA. Il est clairement mentionné dans cette charte de lecture publique la question de la participation des usagers, c'est écrit, la question de la prise en compte dans nos politiques de lecture publique des enjeux de développement durable et de transition, c'est marqué. C'est écrit que nos équipements doivent aussi s'ouvrir à ces questions-là, à ces enjeux-là. Et je pense, même si tout ça était, du moins pour moi, implicite dans la charte de l'UNESCO des bibliothèques, je pense que c'est un outil supplémentaire dont on peut se servir quand on est, voilà, quand on travaille en bibliothèque pour aller chercher un public qui, jusqu'à ce jour, ne, comme le disait très bien Manis, ne s'autorisait pas à venir parce qu'on va aller le chercher, on va aller l'attraper ben, par un autre biais et un biais qui est propice du coup à la participation et à une forme de travail collectif. Donc voilà, c'est juste pour dire que je crois que sur toutes ces questions-là, les outils dont on a besoin, nous, professionnels, ils existent. Et je prends vraiment cette habitude de vous renvoyer donc à ce travail de la charte de lecture publique qui affiche en fait ses bonnes intentions, on va dire.
Si je peux rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, alors il y a quand même en tout cas des textes qui existent depuis un bon moment côté musée aussi. Et on n'a pas parlé des droits culturels, mais en fait, tout ce qu'on développe, que ce soit en musée, en bibliothèque, on s'inscrit complètement dans les droits culturels de la déclaration de Fribourg. Et dans ce droit fondamental qui est le droit de participer à la vie culturelle et qui est d'ailleurs inscrit dans la loi NOTRe depuis 2015. Donc en fait, quelque part, on a aussi un cadre finalement même législatif dans lequel s'inscrire. Et ça, c'est pour le cadre plus général. Et après, dans le cadre de Strasbourg, je mentionnais la direction de la participation citoyenne tout à l'heure. On a également une charte de la participation citoyenne qui existe à Strasbourg depuis 2018, et dans laquelle on a aussi ce cadre avec les différents niveaux de participation, de la consultation jusqu'à la co-construction, la co-décision, et qui nous permet comme ça d'avoir aussi ce cadre de référence pour méthodologiquement mettre en place nos démarches participatives. Voilà, je tenais à le préciser en écho à ce que tu disais.
Merci beaucoup. Alors, nous, on a encore plein de questions, mais peut-être que s'il y a des questions dans le public, comme il est déjà 10h, voilà, on va vous donner la parole.
Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'avais une question concernant les budgets. Est-ce que vous avez touché des aides particulières de vos tutelles respectives ? Comment vous avez géré cette question-là ?
Alors, je peux répondre très concrètement sur la démarche participative du musée zoologique. Donc, elle est coportée par la ville de Strasbourg et le jardin des sciences, donc les musées de la ville de Strasbourg et le jardin des sciences de l'université de Strasbourg. Donc, on est sur un budget sur 3 ans de 28 000 euros. Ce budget comprend en fait uniquement, avec de gros guillemets, l'accompagnement par 2 prestataires. Une prestataire qui est spécialisée en études de public et donc qui est sur les 2 premières phases d'enquête et de focus group. Et une prestataire, donc je peux mentionner d'ailleurs le nom, il s'agit de l'association Métis. Et une prestataire artiseste, donc Alexia Jacques Casanova, qui elle est spécialisée dans justement la mise en place de démarches participatives à la fois en musée et en bibliothèque et qui nous accompagnera sur la phase 3, mais qui est présente aussi depuis le début, puisque l'idée, et ça c'est aussi quelque chose d'important, on a un tout petit peu évoqué les moyens humains tout à l'heure, mais l'idée quand on recourt à des prestataires dans une démarche participative, c'est enfin le risque, parce qu'on parlait aussi de risque, c'est un risque de dépossession de la démarche si finalement on laisse, on délègue finalement la démarche participative à des prestataires qui la gèrent d'un bout à l'autre, et nous on arrive à la fin, le public ne nous a finalement jamais rencontrés. Et donc ça, c'est un point de vigilance à avoir. Pour le coup, nous, on est plus dans une collaboration véritable avec les prestataires, avec la prestataire de la dernière phase qui est présente dès le début pour assurer une cohérence de l'ensemble de la démarche. Et comme je vous le mentionnais tout à l'heure, pour exemple, la passation des questionnaires, je l'ai fait autant moi que la prestataire sur le terrain. Donc on est vraiment sur un partage des tâches et on va mener les focus group ensemble. Il y a toute la question de l'association aussi des équipes en interne. On a peut-être un petit peu moins parlé, mais c'est extrêmement important aussi d'avoir l'adhésion des équipes en interne, une association et un management du projet qui est lui-même finalement participatif. Parce que sinon, une fois que les prestataires s'en vont et que éventuellement le chef de projet se retire, en fait, il faut que la dynamique participative sur le long terme puisse se poursuivre. Et pour cela, l'adhésion des équipes est indispensable. Voilà, donc les 28 000 euros, c'est ce budget prestataire. S'y ajoutent ensuite les frais les dépenses en matière de communication, d'organisation plus logistique, etc. Donc voilà, la totalité dépasse les 28 000 euros, mais le gros de la dépense, dans notre cas, mais du coup, c'est intéressant d'avoir le cas de Lezou, ce sont les prestataires.
Du temps de travail, beaucoup de temps de travail. Donc ces enjeux-là sont inscrits complètement dans les fiches de poste et dans les profils des collègues qui travaillent au sein de l'équipement, hein, donc qui intègrent dans leur quotidien les enjeux et la thématique de la participation. Là aussi, pour faire court et rapide, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre de la participation partout, il s'agit simplement d'interroger ces pratiques du point de vue de la participation citoyenne. Voilà. Est-ce que, si on sollicite une participation, quelle qu'elle soit, de la population, qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est pertinent ? Donc on est uniquement là sur du temps de travail. les trois slides qui ont ouvert nos échanges, en fait, s'inscrivent en fait toutes dans l'action culturelle. Donc on a un budget d'action culturelle. Les ateliers des héros sont des ateliers qui sont menés bénévolement par les habitants du territoire. Donc en termes de lignes budgétaires, fourniture, communication. Les projets contributifs, on va être essentiellement là aussi sur de l'achat de matériel, pas plus que ça. On peut faire appel à des prestataires extérieurs hein, pour apporter compétences et richesses, mais on restera dans les lignes classiques de l'action culturelle. Et puis dans le cadre des projets citoyens, là on change un peu d'échelle. C'est le premier qu'on conduit, donc pas encore trop de recul dessus. Mais là, on est vraiment typiquement dans une démarche projet où il va falloir faire des études de faisabilité, par exemple, donc qui vont demander des moyens financiers un peu plus conséquents. Et puis, si on arrive et on aboutit à la création du skatepark, qui vont nécessiter certainement un montage de dossiers de subvention beaucoup plus important aussi. Mais il n'y a pas chez nous encore à ce jour une ligne, budget participation, ça n'existe pas. C'est inscrit dans le budget général du réseau des médiathèques, sur la question des ressources humaines et sur l'action culturelle. Pardon.
Juste pour préciser, où est pris le budget que j'évoquais tout à l'heure, nous, au sein des musées de la ville de Strasbourg? Ça correspond au budget du département éducatif et culturel auquel j'appartiens. Donc c'est finalement la médiation culturelle qui le prend en charge pour moitié, et l'autre moitié est prise en charge par le Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg.
Merci beaucoup à tous les deux. Alors 45 minutes, malheureusement, ça passe très vite. On n'a pas eu le temps d'évoquer tout ce qu'on voulait dire, mais on reste à votre disposition s'il y a d'autres questions dans le public en off. Et voilà. Et pour conclure, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais on voulait vous demander votre recette magique de la participation. On en avait un petit peu parlé en informel entre nous. Et il y avait notamment un des ingrédients très importants qui ressortait, qui était le temps de la restitution et de la reconnaissance des usagers qui ont participé. Donc reconnaissance qui passe par la restitution des résultats, de qu'est-ce qu'on a choisi, pourquoi, qu'est-ce qu'on n'a pas choisi et pourquoi. Et voilà, je voulais terminer sur cette notion de reconnaissance en vous disant que on était très reconnaissantes, Juliette et moi, de vous avoir reçus et pour cette table ronde. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.